RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, ça continue sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi, comme tous les jours. N'oubliez pas aussi, pour tous ceux qui sont intéressés par ce qui se passe dans leur vie quotidienne, dans leur ville, le Grand Prix des Maires. C'est la 5e édition du Grand Prix des Maires RMC. Et on y tient, c'est chaque année l'occasion de récompenser des initiatives innovantes, de bonnes idées qu'ont pu avoir les maires dans leur ville et qui peuvent faire école partout en France. Ce prix national, nous le décernerons ces prix nationaux avec Olivier lors d'une grande soirée que nous animerons avec les partenaires d'RMC, avec l'Association des maires de France.
Ce sera aux Folies Bergères.
Et vous pouvez inscrire votre ville, votre municipalité en disant bah, ce qu'a fait mon maire, c'est plutôt pas mal, ça marche localement. Ça peut-être être dupliqué, donner des idées à d'autres maires, parce que souvent, la solution, plutôt qu'on attende qu'elle vienne d'en haut, et on voit qu'aujourd'hui, finalement, ça part de Paris, et c'est la même chose pour tout le monde, ça marche de moins en moins bien, autant essayer de faire remonter les bonnes initiatives du bas vers le haut, en allant sur rmcgrandprixdesmaires.fr. C'est notre site internet et vous inscrivez votre municipalité.
Et si vous êtes sélectionné, vous serez aux Folies Bergères, vous pourrez faire un selfie avec Alain Marchal. C'est quand même
Olivier,
sachant que je suis pas certain qu'aux Folies Bergères, la proie première ce soit Alain Marchal, mais après
le selfie avec moi je suis une petite réduque pour les mères femmes bien sûr. Oui. Et on fait un forfait à deux avec Olivier, deux pour le prix d'un dans ces cas-là.
Blague à part, il y a des belles initiatives. Moi, j'en rappelle que l'année dernière, franchement, il y avait des jolies initiatives. Moi, c'était au Lido.
De gérer le spectacle
des Folies Bergères. Moi, sur scène.
Il n'y a aucun problème.
RMC Grand Prix bénévolement.
.fr. C'est pas négociable.
Donc, allez-y, inscrivez votre municipalité. On y va maintenant pour évoquer un nouveau sujet de discussion dans les GG, dans les grandes gueules, le télétravail.
RMC, les grandes gueules.
Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron.
L'occasion de réécouter les célébrissimes Charlot. L'indemnité de télétravail qui va être augmentée de 15% à 2,88 euros par jour, notamment dans la fonction publique, pour inciter à ce qu'il y ait davantage de télétravail, donc moins de déplacements du domicile au travail. Alors, le télétravail, l'avènement, ça a été pendant le Covid. Mais c'est la nouvelle fracture sociale.
Oui, parce que le télétravail, c'est sans doute une très bonne chose pour ceux qui en profitent. On travaille chez soi, on évite les transports, on est au calme. Pour peu qu'on ait un appartement, une maison plutôt sympathique, on est quand même dans des conditions agréables, parfois plus agréables quand même qu'au boulot. Mais c'est vrai que ça a renforcé des fractures sociales parce que tous les travailleurs n'y ont pas accès. Par exemple, tous les métiers les plus pénibles, finalement, ne sont pas très télétravaillables. Si vous travaillez dans le nettoyage, le bâtiment, le transport, la maintenance, la restauration, vous pouvez pas le faire à la maison. Le droit au télétravail ne s'applique pas à tous. On estime d'ailleurs que seulement 60% des métiers pourraient se faire à distance. Et encore, c'est un chiffre qui est contestable. Enfin, ça veut dire qu'il y a quasiment un salarié sur deux qui ne peut pas travailler ailleurs que sur son lieu de travail. Alors, est-ce que c'est pas ça le problème du télétravail, cette nouvelle fracture sociale qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train d'inciter, puisque le gouvernement, au nom de la sobriété énergétique, nous incite à télétravailler, à rester à la maison? Est-ce que c'est pas un problème?
32-16 pour le dire au GG, est-ce que c'est la nouvelle fracture sociale, le télétravail? À vous d'en parler en toute franchise, de la manière dont vous le vivez dans votre entreprise. Thomas?
Non, ce que t'as dit est vrai. Si, comme il y a un salarié sur deux qui peut pas faire du télétravail quasiment, il y a une forme d'injustice. Mais après, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi quand même empêcher ceux qui peuvent faire du télétravail, en partie, hein, pas totalement, parce qu'en partie, de le faire. Parce que, par exemple, que tu aies une journée par semaine en entreprise quand tu peux travailler de chez toi, est-ce que c'est pas mieux, même pour la productivité du salarié? Tu gagnes quand même du temps que tu ne perds pas dans les transports, tu peux amener tes enfants à 8h30 à l'école, tu te prépares à 9h, t'es opérationnel, t'as ton heure pour manger, le soir tu finis à 18h. Enfin, donc il y a quelque chose quand même où je me dis, si on peut le faire à distance, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi encore obliger les gens à venir au travail, être sous surveillance de leur N+1, pour parfois des... Enfin, c'est parfois, je pense que c'est même plus contre-productif. C'est-à-dire que les mecs travaillent encore moins bien que s'ils étaient chez eux une ou deux journées par semaine. Donc oui, il y a une injustice parce que tout le monde ne peut pas le faire, mais en même temps, pour la partie des gens qui peuvent le faire, pourquoi ne pas le faire?
N'en faisons pas une opposition.
Oui, n'en faisons pas une opposition.
Thomas, Il y a beaucoup de métiers, on ne trouve plus personne. Et c'est souvent des métiers qui ne sont pas très télétravaillables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui se détournent de ces métiers parce qu'ils se disent « je ne pourrai jamais être à la maison ».
Ça va poser un problème. Mal payés aussi, ou parce qu'ils sont mal payés.
Oui, mais c'est tout est un peu lié. C'est-à-dire que ces métiers, finalement, accumulent tous les handicaps. Ça va poser un problème au bout d'un moment. Je suis désolé, on a besoin d'agents de nettoyage, on a besoin de bâtiments, etc.
Agents de sécurité.
Ce sont ce qu'on appelle les métiers essentiels.
Les serveurs.
Olivier, je ne crois pas que l'arbitrage se fasse vraiment sur que quelqu'un dise que c'est télétravail ou pas télétravail.
Ça rentre dans
Je pense qu'entre deux boulots de même catégorie, par exemple, est-ce que tu es cadre dans une entreprise qui dit moi il y a pas de télétravail et tu es cadre dans une autre entreprise
quasiment plus l'entreprise.
Moi il y a deux jours de télétravail. Là je pense qu'il y a un arbitrage qui peut se faire.
Il y a plus tellement d'entreprises qui interdisent le télétravail. Non, mais
quand on travaille dans la restauration, quand on travaille dans des métiers où justement le télétravail n'est pas possible, la question elle se pose même pas. C'est plutôt la question des salaires.
Non mais c'est à dire que c'est le choix entre un métier télétravaillable ou un métier non télétravaillable. C'est pas à l'intérieur de
je suis pas sûr que cet arbitrage existe à titre personnel.
Moi personnellement, je trouve que le travail c'est aussi un lieu de sociabilisation, tu vois, et où tu rencontres les autres. Et moi, je connais beaucoup de femmes qui pendant le Covid, tu vois, justement, elles ont télétravaillé et elles ont été débordées par la maison, par les responsabilités, parce que tu fais pas quand tu es une femme que tu es chez toi et que tu as tes gamins, tu as ton mari, tu as ta mère malade à côté, tu fais pas que travailler en fait. Donc tu peux être aussi moins productif parce que tu es rattrapé par les choses de la vie. Et télétravailler dans un 45 mètres carrés et télétravailler dans une maison de 200 mètres carrés avec un jardin, c'est pas pareil. Il y a tellement de facteurs, tu vois, c'est comme moi je compare le télétravail au confinement en fait. On n'est pas tous égaux, y compris en salaire, y compris en conditions de travail. Et moi je crains que voilà, ça peut isoler certaines personnes, certaines femmes qui sont déjà isolées. Et aller sur ton lieu de travail, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui sont isolés, tu sais, qui n'en parlent pas. Quand tu les vois, ils sont super bien physiquement, tout, etc. Mais quand tu rentres chez eux, ils sont seuls, notamment les familles monoparentales. Et quand tu vas au travail, c'est le lieu où tu vois des gens, où tu discutes, où tu rencontres une femme de ménage que tu n'as jamais vue, ton agent d'accueil, etc., etc. Donc moi, il ne faut pas opposer les deux. Il faut peut-être laisser le libre arbitre à chacun. Mais il ne faut pas l'imposer non plus, parce que le travail, c'est aussi un lieu de sociabilisation où tu croises les autres. C'est important.
Mourad.
Moi, je pense que cette histoire de télétravail est révélatrice d'un monde nouveau. Aujourd'hui, on a créé un monde où, en matière économique, on a sous-évalué le travail qui réclamait une présence physique et un effort physique au profit du travail qui réclamait plus d'intellect, on va dire. À part footballeur de haut niveau, où on est très bien payé et on ne peut pas télétravailler non plus, on a décidé de sous-payer. Grosso modo, c'est ce qui apparaît aujourd'hui. Tous ces métiers essentiels non pas par la présence physique, mais essentiels pour que notre société fonctionne. Si on n'a pas des boueurs, si on n'a pas d'agents de sécurité, tout ça. Et ces boulots sont sous-payés. Et on ne peut pas télétravailler. Et on a vraiment cet écart qui s'est créé aujourd'hui. On se rend compte que ces boulots où finalement on peut bosser de chez soi sont super mieux payés que tous ces boulots où la présence physique est indispensable. Et c'est peut-être aujourd'hui un rebattage des cartes de se dire... Est-ce qu'aujourd'hui, notre modèle économique, où on a sous-estimé toute cette partie du travail, je veux dire, on a tous été, quand tu rentres à l'école, je veux dire, il y a des métiers, si tu les fais, c'est que tu as raté ta vie, quoi. Et c'est totalement faux, en plus. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de repenser tout ça, de repenser la redistribution, effectivement, sur notre modèle économique de ces métiers essentiels? Parce que là, on peut parler de métiers essentiels, sous-payés, et sur lesquels, en plus, la présence physique et l'effort physique est obligatoire. Parce que s'il y a présence physique, ça veut dire qu'il y a effort physique.
Donc la fracture sociale, elle est là.
Exactement, bien sûr.
Et pas télétravail.
Et le Covid a eu cette faculté, aujourd'hui, de révéler, de mettre en avant toutes ces failles dans notre modèle économique.
C'est pas une fracture sociale, c'est peut-être une fracture morale. C'est-à-dire que ça crée de la jalousie. Tu sais, ça crée de la jalousie entre les salariés. Ça crée de l'envie, ça crée de la frustration, ça crée de l'aigreur en disant, si tu veux, moi j'en suis là et je ne bougerai pas. Jamais je pourrai être en télétravail, jamais je pourrai monter dans la vie, tandis que les autres, si tu veux, de nouveau, ceux d'en bas regardent.
Dans l'imaginaire avec collectif, envie, le télétravail,
avec jalousie,
c'est la liberté,
avec
la possibilité de ne pas travailler.
Ceux qui sont en télétravail, en plus en télétravail, tu as la notion de télé. Je peux aller. Ça veut dire que t'es devant ton écran. Et si devant ton écran, ben finalement, tu bosses peut-être pas à fond comme
Moi, Tinder, tu vois, qui suis dans les couloirs ou le matin.
Et pour aller dans ton sens, et je suis pas d'accord avec Thomas qui disait non, il n'y a pas d'arbitrage entre les métiers. Moi, je pense qu'il y a un arbitrage. D'autant plus que ce télétravail favorise quoi? Favorise les métiers de la livraison, hein, puisque plus tu restes à la maison, plus tu vas te faire livrer ton repas, etc. et tout le reste, puisque tu bouges plus de chez toi.
C'est une sociabilisation.
Tu vas plus entre midi et deux faire des courses, etc. Donc tout est livré. Non, c'est pas ça, mais si tu fais, donc va se développer deux mondes. Donc le monde de la personne chez elle, où on est quand même plutôt bien, et le monde de ceux qui devront tout livrer, qui seront dans des métiers plutôt pénibles. Thomas, je pense que tu sous-estimes le
monde qu'on est en train de faire. Sans oublier les conséquences économiques que ça peut avoir. Excuse-moi, Thomas. J'ai un ami, j'ai pas de bonne fréquentation, qui est responsable de l'URSSAF, et j'ai visité ses bureaux, il y avait personne, ils sont tous en télétravail. Mais quelle est la conséquence? Ben, c'est que j'espère qu'il m'écoute d'ailleurs, c'est que les petits restos et les petits bars, ils vont tous fermer. Là où il y avait des entreprises avec de la présence physique, il y a tout un îlot économique qui s'est créé autour,
ces petits commerces,
et qui vont fermer, et qui vont mourir.
Je suis entièrement d'accord. Alors là, je suis d'accord avec toi.
C'est l'avènement d'Uber, Uber et Amazon en arrivée. Le Covid l'a fait.
Mais je crois vraiment, je pense qu'on surestime aussi le fait que elle a bien dit Kauter. On surestime le fait que les gens veulent tout le temps faire du télétravail. Ils veulent un volant de télétravail, mais ils veulent pas tout le temps. Oui. C'est fini, ça.
Ils veulent toutes les semaines.
Un volant, c'est un jour. Deux.
Dans les boîtes, ils veulent deux jours.
Moi, par exemple, j'ai 20% de mes cours qui sont encore à distance. Alors effectivement, si on était en pic de contamination de Covid et tout, je veux bien, moi, que les cours soient à distance. Mais moi, je trouve ça horrible. Je parle à un ordinateur, les étudiants sont connectés, je les vois pas. J'ai l'impression de me parler à moi-même, je me vois dans le truc. Je leur dis, c'est bon, vous avez compris? Avant qu'il y ait une réponse, t'as 5 minutes. Je dis, c'est bon, vous avez compris? Et là, oui, monsieur, j'ai le chat. C'est horrible. Moi, je sais que
Terra Nova, le club de réflexion de gauche, là.
Ils ont dit beaucoup de conneries. Hein.
Oui, mais ils continuent, ils préconisent, préconise un socle minimum de télétravail par an dans chaque entreprise. Ça serait dans la loi, c'est d'ailleurs un socle minimum.
24 jours.
Ça m'étonne pas. Moi, je fais des séminaires avec des pays de la Méditerranée sur des développements pour des projets de femmes, économiques, etc. Franchement, quand on faisait les séminaires en direct dans des amphithéâtres, c'est quand même beaucoup plus productif, tu m'excuseras, et tu rencontres les gens, et tu as un lien social, tu as un lien humain, en fait, tout simplement. Moi, ce que je crains dans ce télétravail, c'est la perte du lien humain. Comme tu l'as dit, tu vas plus au bistrot du coin, tu vas plus au café du loin, tu connais plus ta collègue parce que tu parles à un écran, tu envoies 3 mails, tu sais pas qui c'est, tu connais pas ses problèmes, elle te soutient pas, tu la soutiens pas, ça suffit, quoi, exactement.
Le télétravail, il faut aussi mettre en avant aujourd'hui une autre aberration de notre modèle économique, notamment lié au marché du travail, qui est qu'on parle de travail en termes de temps et d'horaire, alors qu'on doit parler du travail en termes de résultats. Ouais. Je préfère un commercial qui en une heure me rapporte 10 000 euros qu'un type qui en 35 heures va faire 100 euros de commande.
Exactement.
Voilà. Et malheureusement, on a décidé qu'on travaillait de 9h à midi, de 14h à 18h par exemple. Ça, c'est l'ancien monde. Le travail ne peut pas s'aligner de façon avec des horaires. Le travail, c'est de la création, c'est du résultat, c'est de l'engagement, mais il n'y a pas des horaires, on va dire, on va être créatif et on va s'engager. C'est tout ça qu'il faut revoir. Et le télétravail peut apporter ça. Si quelqu'un télétravaille et qu'il a de meilleurs résultats, ça me pose pas de problème. Un entrepreneur, ce qu'il veut, c'est des résultats.
Alors, Marilyn nous appelle.
On a l'impression que le fait de travailler physiquement, ça permet de surveiller le temps. Attention, je t'ai acheté 3 heures, là, il faut que tu sois présent physiquement 3 heures.
Marilyn qui nous appelle de la Meuse. Bonjour Marilyn.
Bonjour les GG.
Est-ce que c'est la nouvelle fracture sociale, France dans ou France dans mal, télétravail?
Alors, oui, pour une part, pour les grands cadres, comparé aux petits ouvriers administratifs.
Vous êtes agent SNCF?
Oui, alors moi je suis une administrative à la SNCF, je travaille dans les bureaux. Alors je fais 2 jours de télétravail, j'ai mes collègues en prod qui eux ne peuvent pas le faire, hein, puisqu'ils sont soudeurs, machinistes, vous voyez bien. Bien sûr. Oui. Moi ce qui me dérange le plus, c'est que là en début d'année, on a eu un cas contact à l'école de mon fils, et j'ai demandé comment ça se passait s'il était positif. Et on m'a répondu, tu te mettras en télétravail. Je dis ok, mais pour les collègues, comment ça se passe? On m'a répondu, ils prendront des congés. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ils devraient avoir accès aux gardes d'enfants comme il y avait à l'époque du grand Covid pour pouvoir garder les enfants. Pourquoi moi je resterais en télétravail et pas eux?
Oui, je comprends.
Eux devraient prendre des congés personnels. Là, l'inégalité de nos dirigeants, en fait. Mmh. On nous traite pas de la même façon.
Mmh. En fait, ça veut dire, oui, on confond ceux qui sont en télétravail en se disant, ben finalement,
Tu restes chez toi.
Tu restes chez toi, t'organises, c'est ça quoi en fait, Marilyn.
Bah, moi, voilà, c'est ça. C'est nos dirigeants qui nous font des différences.
Oui.
C'est ça qui me dérange. Moi, mes collègues, ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment quand je suis en télétravail. Je suis joignable. J'ai un téléphone professionnel. On a des applications pour même faire des réunions en ligne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et les collègues qui sont en production, ça leur pose pas problème. Par contre, là, moi, quand on a des différences de traitement type Covid, ça me dérange.
C'est pas des différences, c'est des traitements adaptationnels.
Vous envers eux, quoi. Pourquoi eux devraient prendre des congés alors que nous, on nous autorise à être en télétravail les 5 jours, quoi.
Mais Marilyn, vous dites aussi quelque chose d'important. On avait parlé avec Marianne ici au départ de quand on parlait du télétravail. Vous dites, moi j'ai un téléphone professionnel, on peut me joindre n'importe quand. C'est pas normal qu'elle puisse être jointe n'importe quand. C'est pas normal que son employeur lui envoie des messages. Des mails.
Oui, pendant les horaires.
Oui, parce que non, mais.
Dévolu.
Parce qu'il y a des. On parlait ici avec Marianne il y a quelques mois, il y a moins d'un an parce que je suis arrivée il y a un an, qu'il y avait des patrons qui t'envoyaient des mails à 20h et en gros, il fallait que tu répondes à 20h. Si tu répondais pas, ça te mettait aussi une pression. Donc c'est ça aussi, le télétravail.
Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Parce que Mourad dit de 9h-18h, c'est fini.
Oui.
Alors, si à 20h, on peut pas t'envoyer un mail et
Excuse-moi. Ça sous-entend quand tu as un télétravail que tu travailles jusqu'à pas d'heure, en fait. Tu n'as plus d'horaire, en fait. Tu travailles tant que ton patron a besoin de toi.
Ça sous-entend.
Merci à Marilyn d'avoir été avec nous.
Ça sous-entend qu'un salarié est un collaborateur. Et ça veut dire que ça peut marcher dans les deux sens.
Oui.
De l'autre côté, le patron peut accepter qu'à 14h, il ne soit pas là. Parce qu'il a besoin d'elle.
C'est rarement ça.
C'est de la collaboration, le travail.
Si c'est comme ça, oui, mais c'est rarement ça.
C'est la nouvelle fracture sociale, le télétravail. L'exemple de Marilyn dans un instant, celui d'Alexandre. Marilyn dans la Meuse, Alexandre dans le Gard. On continue de se promener dans le pays. C'est ça, les grandes gueules. C'est vous qui nous racontez.
Ils cherchent tous de l'essence.
Cette vie du quotidien, tout de suite, en direct sur RMC, RMC Story.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On parle du télétravail. On pousse davantage les entreprises au télétravail pour éviter le déplacement domicile-bureau pour les salariés. Déplacement domicile brune
pour ceux qui ont un domicile, bien sûr.
En voiture personnelle, ce qui, bien sûr, va réduire la facture énergétique. C'est avoir moins de salariés aussi au bureau. Ça implique d'avoir c'est quoi déjà? De baisser le chauffage et d'éteindre la lumière à ce moment-là. Si t'as des étages qui sont vides parce que tes salariés sont en télétravail. Bien sûr,
oui, enfin, l'entreprise va faire des économies. Un peu dans loop, parce que finalement, on déporte tes choses. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui va dépenser l'énergie, mais c'est chez toi, le salarié, qui va dépenser du chauffage électricité. Alors ça ne fonctionne qu'effectivement si la boîte joue le jeu et éteint tout quand t'es pas là.
Nous sommes avec Alexandre. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour. Bonjour.
Du coup, on s'interroge. Est-ce que c'est la nouvelle fracture sociale, le télétravail, Alexandre?
Mais non, moi, je suis ouvrier agricole et travaux publics. Faut arrêter de mettre les salariés les uns contre les autres. Moi, je peux pas télétravailler. Mm. Mais c'est pas parce que moi, je peux pas télétravailler que je vais en vouloir aux autres. Ceux qui peuvent le faire, mais tant mieux qu'ils le fassent. Ça fait moins de monde sur les routes. Et les gens, s'ils peuvent être chez eux, tant mieux. Je veux dire, moi, je suis pas jaloux des gens qui peuvent le faire. Les maçons, on a la chance, des fois, on peut faire une semaine en 4 jours, si on fait des heures pendant ces 4 jours-là. Et eux, ils n'ont peut-être pas cette chance-là, donc s'ils peuvent être chez eux, ben, tant mieux. Il faut arrêter de mettre les gens les uns contre les autres, quoi, pour ça.
Mais ça veut dire que vous ne jalousez pas vos collègues, ou certains que vous connaissez éventuellement autour de vous, qui sont 2 ou 3 jours par semaine à la maison, à travailler, à arranger leur mode de vie, mode de travail, quoi.
Ah non, du tout. S'ils peuvent être 5 jours chez eux à travailler, tant mieux pour eux, je veux dire. Après, moi, j'ai choisi mon métier, j'aime mon métier, je savais à quoi m'attendre. C'est comme ça.
Mais à l'époque, vous avez choisi votre métier, c'est très bien. Moi, je suis complètement d'accord avec vous sur ça. On n'a pas jalousé nos collègues, il ne faut pas qu'on soit les uns contre les autres. Mais à l'époque, vous avez choisi votre métier, cette notion de télétravail n'existait pas. C'est quand même quelque chose qu'on a découvert post-Covid et pendant le Covid, surtout, et qui se pérennise aujourd'hui de plus en plus.
Non, mais même si ça avait existé, moi, je ne peux pas. Je ne vais pas semer du blé dans mon salon.
Oui, mais Alexandre, moi, je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui, ça sera l'un de leurs critères de choix de métier. Est-ce que c'est un métier où je peux rester quelques jours à la maison? Et donc, il y a quand même des métiers qui sont particulièrement en tension, notamment les métiers qui sont justement non télétravaillables.
Oui, mais c'est pas les mêmes jeunes. C'est pas les mêmes jeunes.
Bah, je sais pas, par exemple, dans l'agriculture, dans la restauration, etc. À un moment donné, j'ai peur que ça accentue le problème.
Si tu fais un lycée agricole, excusez-moi.
Allez-y, Alexandre.
Ouais.
je veux dire, l'agriculture, c'est une passion. Je veux dire, tous les jeunes autour de moi qui font ces métiers-là, même ceux qui ont 15, 16 ans maintenant, qui veulent être dans l'agriculture ou être agriculteur plus tard, c'est une métier de passion, ça, on le sait.
Non, mais...
On le fait pas parce qu'on n'a pas de travail, l'agriculture. Je connais personne qui est venu travailler dans l'agriculture comme ça.
Tu vas pas faire un lycée agricole et te dire j'aimerais avoir du télétravail. Tu vas pas faire médecine et te dire je fais médecine en fait en espérant avoir du télétravail. Tu sais très bien que c'est des métiers qui n'ont pas de télétravail. Donc je pense que l'arbitrage télétravail non télétravail, il concerne vraiment des gens qui ont fait des bacs plus 5 qui vont être cadres dans les services et qui là se disent entre une entreprise qui me propose télétravail et une entreprise qui m'en propose pas, je préfère celle qui me propose du télétravail. Ça va être pareil par exemple chez les avocats. Parce que, et là je rejoins ce que dit Mourad, il y avait un moment des structures qui étaient idiotes. Si t'es un avocat et que tu traites bien tes dossiers et que t'es très productif, que tu sois chez toi ou au cabinet, ça change quoi ? Rien, en fait. Il y avait encore des cabinets qui t'obligeaient à venir, à être là présent, en présentiel, alors que ça ne servait à rien, alors que les gens étaient plus productifs parfois chez eux. Donc je pense qu'il y a un changement dans les métiers de service, mais dans beaucoup d'autres métiers, on sait très bien qu'on va pas faire du télétravail, et voilà quoi. Et on le choisit en connaissance de cause.
Allez-y Alexandre.
Je disais non, mais c'est vrai ce que dit monsieur, parce que ma sœur est avocate à Cherbourg, et elle peut, il y a des choses, qu'elle soit à son bureau à préparer un dossier ou chez elle ou chez mes parents à la campagne, je veux dire, ça va rien changer, même autant qu'elle soit à la campagne en plein air, quoi. Je veux dire, quand il fait beau, être tranquille, je veux dire, ça va rien lui changer d'être à son bureau.
Mais
ça,
je me demande quelle société on se prépare, parce que le travail, c'était quand même aussi le lien social, c'était rencontrer l'autre.
Voilà.
C'était
la société du cocooning
virtuel.
Aujourd'hui, les amis sont connaître aussi ses différences, sa vie de famille.
C'est ce que je te disais.
Tu vois qu'on pouvait échanger, tu pouvais rencontrer aussi.
Tu pouvais
former un couple, rencontrer ta femme, rencontrer ton mari.
C'est la société du cocooning que dénonçait mercredi Pascal Bruckner qui était ici.
La société du pantouflage.
Voilà, parce que tout nous pousse à ne plus bouger de chez nous.
Ouais.
On va plus au cinéma, on regarde Netflix. On ne va plus travailler, on reste à la maison travailler. On ne va plus au restaurant parce qu'on peut se faire livrer à manger.
Et c'est pour ça que je n'aime pas le télétravail.
Alors, peut-être que c'est ça le monde de demain.
Hein.
Tous à la maison.
Les jeunes, sur ce que tu disais, tu as raison, mais parce qu'aujourd'hui, là, une grande partie des jeunes, avant, quand on voulait bosser, monter sa boîte, on allait voir son banquier. Maintenant, ils estiment que leur ordinateur, c'est une banque. Et qu'ils peuvent faire de l'argent avec leur ordinateur sans sortir de chez eux. Aussi. C'est le rêve de la start-up, de chacun de monter sa petite start-up, son site, et puis
faire
son business.
Voilà.
Oui, mais alors,
moi, je suis désolé.
Et avant, la différence qu'il y a aussi, c'est que quand on avait un petit peu d'argent, on se disait, comment créer de l'emploi? Aujourd'hui, on se dit, comment trouver du rendement?
Ouais.
Et puis du tout la même mentalité.
Kauter.
Moi, je suis.
Merci Alexandre d'avoir été dans les
Merci Alexandre. Moi, j'ai peur du télétravail, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vraiment, pour moi, le symbole et la signification de la désociabilisation, en fait. Tu rencontres plus tes collègues.
Se sociabiliser ailleurs qu'au travail. Hein.
Oui, mais Mourad.
On n'est pas obligé de rencontrer déjà sur Tinder et il y a une vraie vie aussi qui peut exister en dehors du travail.
Excusez-moi, je m'en vais terminer mon argumentaire.
Du sport, dans des clubs de sport, dans des.
Oui, mais.
Il y a une vie en dehors du travail.
Oui, mais tout ça nécessite de l'argent, d'accord? Et donc, quand tu télétravailles, parce que tu as des gens qui gagnent bien leur vie, télétravail, mais tu as des employés de bureau qui sont à 1003 qui télétravaillent, tu vois. Ils vont avoir plus de frais à la maison, ce que je te disais d'ailleurs, ils vont payer plus d'électricité, etc. Ouais,
c'est sûr.
Moi, je suis désolée, il y a plein de gens, excuse-moi, qui ne vont pas à la salle de sport, le travail vraiment.
C'est là où tu peux rencontrer des amis, tu peux parfois rencontrer ta femme ou ton mari.
Tu peux trouver de la solidarité pour garder les enfants, tu vois, etc. Il y a beaucoup de mères célibataires, tu vois, qui se soutiennent via le travail. Il y a beaucoup aussi
de
catégories socio-professionnelles qui ne se rencontreraient pas si elles n'étaient pas au travail. Tu as plein de femmes de ménage qui font du ménage au black chez les cadres parce qu'elles se rencontrent au travail, ou nounou, etc., etc. Moi, je suis désolée, c'est pas le seul lieu de sociabilisation, mais c'est un lieu important de sociabilisation.
Et
de mixité sociale.
Le Covid, ça a été la dernière pierre à cette édition.
Il y en a qui ont dit qu'on a fermé les boîtes de nuit, les gens ont pu se rencontrer.
Longtemps en avance. Il y a eu Internet qui fait que le travail s'invite chez toi. Tu as les Deliveroo qui fait que maintenant les repas s'invitent chez toi. Tu as Netflix qui fait que tu choisis le film à l'heure que tu veux, quand tu veux, avec des séries qui durent 30-40 minutes que tu peux avoir dans ta pause repas. C'est-à-dire que t'es chez toi, t'as la pause repas, t'ouvres Netflix. Donc, tout ce qui s'est passé avant comme innovation technologique nous a poussé finalement à rester chez nous et à passer par le digital plutôt que par le rapport humain.
Mais c'est le
plus
accentué par le discours ambiant qui est de dire il faut moins bouger, il faut moins prendre de voiture.
Mais c'est le monde.
Il faut moins prendre l'avion parce que c'est polluant. Donc, bouger, ça pollue. Et donc, rester chez soi, voilà.
C'est le le monde idéal pour Netflix et pour Amazon, c'est produire et consommer sans sortir de chez soi.
Exactement.
Bezos l'a théorisé quand il a lancé Amazon.
Avec la complicité des écolos radicaux.
Mais il y a une tendance.
Mais oui.
Il fallait qu'il la place.
Mais c'est pas que je la place, mais c'est une réalité. Si tu vas, quand tu écoutes les écologistes, en ce moment, ils te disent tu n'as plus le droit de bouger sauf à vélo ou à pied. Parce que sinon, ça pollue. Donc, en restant à la maison.
Non, mais c'est un phénomène sociétal parce que, tu vois, il y a 15 jours, je laisse de l'argent à mon fils le vendredi parce qu'ils n'avaient pas cours avec son copain pour qu'ils aillent manger au snack et qu'après, ils m'attendent à la maison. Ben, au lieu de rester au snack qui est en bas de la maison, ils ont pris à manger, ils sont montés à la maison parce qu'ils se sont calés devant leurs écrans, tu vois, ils ont regardé One Piece, je sais pas trop quoi, etc. Et donc, en fait, c'est un phénomène de société, en fait. Au-delà du travail, les gens veulent rester à la maison, ils ne veulent plus sortir. Et ça, c'est inquiétant.
C'est inquiétant.
Bah, c'est le confinement. Attends, écoute Jean-Luc qui est avec nous du Loiret. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Alors, est-ce que le télétravail, c'est la nouvelle fracture sociale ou pas?
Pour moi, c'est quelque chose qui est déplacé. Je l'écoutais tout à l'heure avec vous. En fait, on déplace une dépense d'un endroit, c'est favoriser les entreprises parce qu'elles ne sont pas soumises forcément au bouclier énergétique, pardonnez-moi. Et on va le déplacer sur le salarié. On voit ça premièrement. Après, tout dépend s'il a un bon salaire ou pas et que ça impacte fortement ou pas. Tout à fait. Et après, il y a autre chose aussi, c'est que, personnellement, je travaille à l'hôpital. Mon activité maintenant me permet de faire un peu de télétravail. On a signé une charte et du coup, on a une autorisation d'une journée hebdomadaire. Et voilà, pour le lien social, on a besoin aussi d'être sur site. Donc, moi, je pense que c'est bien. C'est bien. Après, il ne faut pas mettre les ouvriers les uns contre les autres, enfin les employés. Mais c'est surtout qu'il faut garder un minimum ce lien social. Et je pense que c'est surtout pour masquer des dépôts qu'on a laissés percuter tout un système pendant des années, quoi.
Ça vient aussi, les uns contre les autres, c'est bien aujourd'hui que dans l'imaginaire collectif, le télétravail, c'est une chance. Et vous l'avez tous dit que c'est une chance. Donc on a l'impression que ceux qui télétravaillent, travaillent moins. Et travaillent de façon plus libre, ne sont pas surveillés. Aujourd'hui, on en parle comme une chance.
Oui, mais c'est une. Bien sûr, c'est
vous travaillez à la maison, vous,
c'est une autre manière de travailler.
Je suis manipulateur et dosimétriste à temps plein depuis 5 ans. Donc je fais les simulations des traitements de cancer sur ordinateur.
D'accord.
Et du coup, maintenant, mon activité me permet, une fois de temps en temps, de faire du télétravail. Et le fait est que quand on est en télétravail, parfois, on a aussi l'impression de. Enfin, moi, j'en fais toujours plus parce que j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez par rapport à quand je suis sur site.
Après, c'est la manière dont chacun gère son télétravail.
Vous êtes consciencieux.
On a vu, on a tous vu.
Il y a des patients au bout, quoi.
Oui, bien sûr, mais il y en a d'autres qui sont dans le télétravail. On les voit le matin, ils font leur petit reporting, comme on dit, tu sais, leur compte rendu. Ils en ont pour une heure et demie, et puis après, ils sont dans le jardin.
Le télétravail.
De toute façon, je sais que la prochaine fois que je vais avoir une demande, puisque tu sais, c'est sur ordinateur, il est dans le jardin pendant une plombe, il fait ses fleurs, ses trucs. Donc finalement, la journée de travail, elle se résume à 4 heures dans la journée.
Les grands
maximum. Je l'ai vu autour de moi.
Les grands perdants du télétravail sont les médecins. Parce que le télétravail a remplacé les arrêts maladie de complaisance. Voilà, c'est une réalité. Les arrêts maladie de complaisance, ça existe.
Ce qui est intéressant dans les très grands groupes, ce serait de voir l'impact que ça a eu finalement sur les bénéfices. Parce que ça se trouve, il n'y a aucun impact.
Sur la productivité ?
Oui, ça se trouve, il n'y a aucun impact. Et là, tu te rends compte, tu bosses 4 heures.
C'est un double sens.
Les bénéfices
que le salarié servait à rien.
Et tu dis, pourquoi pas ? Non, mais c'est ça, c'est intéressant. Ce serait intéressant, une fois que le quoi que le coût serait parti, de voir l'impact sur les bénéfices. Ou s'il n'y en a pas, ça veut dire que c'était le bon rythme.
Un dernier rappel, je remercie Jean-Luc du Loiret. Océane à Paris. Bonjour, Océane.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Responsable recrutement télétravail. Donc, est-ce que c'est la nouvelle fracture sociale ou pas?
Non, je dirais pas que c'est une fracture sociale, mais c'est une nouvelle manière de travailler. Alors, pas si nouvelle que ça. Je crois que c'était Kauter qui disait que c'est un peu connu depuis le Covid. On faisait du télétravail déjà bien avant, mais c'était un peu plus décrié. Il y a plusieurs points. Alors, j'ai pas tout écouté parce que je suis en télétravail. Donc, j'étais en télétravail, j'étais pas dans le jardin.
mais là, vous télétravaillez pas.
On
va passer un coup de fil au GG. C'est dans le contrat de travail, ça.
Allez-y.
Justement, parce que grâce au télétravail, je peux me connecter un petit peu plus tôt et le temps que je ne perds pas dans les transports, je peux appeler.
Exactement. Bonne réponse. Elle est bien,
la, la partie commerce, j'entendais qu'il y avait le côté, ça tuait un petit peu les petits restaurants autour des centres d'activité. En fait, ça fait de professionnels, ça fait déjà longtemps qu'en fait ces restaurants n'existent plus, on va dire entre guillemets. Parce que quand vous avez une pause déjeuner, le restaurant qui fait de la vraie cuisine, en général, vous attendez une demi-heure pour être servi, et c'est typiquement pas le type de restaurant dans lesquels allaient les salariés. Aujourd'hui, vous allez dans les centres d'activité, vous avez des restaurants où vous pouvez être servi en 10-15 minutes, c'est pas de la vraie nourriture, et vous avez beaucoup de food truck. Ensuite, moi, j'ai jamais autant fait travailler mes commerces depuis que je suis en télétravail. Le matin, je vais prendre mon croissant à la boulangerie, je rentre chez moi, j'ai le temps d'aller chez le boucher à midi, de faire mariner mon poulet, de faire cuisiner le soir et de me racheter une baguette. Avant, typiquement, on se prenait un croissant à la Nicaline ou à la Midorée. C'est pas bon, c'est cher, c'est pas naturel. Pareil sur les cafétérias d'entreprise. Il y a beaucoup plus de travail auprès des commerces depuis qu'on est en télétravail. Moi, je suis sur la partie recrutement. Donc, ce que j'ai vu, c'est que ça permettait notamment le télétravail de beaucoup plus embaucher de personnes en situation de handicap ou qui ont des maladies chroniques.
Ça, c'est vrai.
Vous avez raison. Avec la semaine à 4 jours ou 4 jours et demi, c'est imparable. Les gens n'ont pas forcément envie de dire à l'employeur « j'ai envie de poser ma journée parce que j'ai un enfant dont je dois m'occuper ». Ils se mettent en télétravail et ça passe crème. Il y a un autre point qui est sur la demande des salariés. Genre les deux derniers points, les demandes des salariés. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes dans leur demande liée au recrutement. La possibilité de faire du télétravail ou une semaine écourtée fait partie des critères. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que moi, j'ai des candidats et des candidates qui me disent, je suis prêt à avoir un salaire un peu moindre. Ouais. Si j'ai la possibilité de faire du télétravail ou de pouvoir aménager,
c'est intéressant.
Donc ça, honnêtement, financièrement, pour une entreprise, c'est très intéressant.
Donc c'est une qualité de vie, en fait. Les gens recherchent une qualité de vie.
Il y a quelque chose qui serait intéressant de faire.
Le salaire n'est pas forcément...
Simplement, Océane, surtout en plus en région parisienne, où les gens perdent un temps fou dans les transports en commun.
Merci. Mais il y a quelque chose, juste, je termine avec ça. Je voudrais qu'on fasse une analyse, enfin, je ne sais pas si ça a été fait, du taux d'arrêt maladie des gens en télétravail avec le taux d'arrêt maladie des gens en présence physique. Normalement, on doit avoir à peu près les mêmes, et je suis pas sûr.
Mais non,
merci
Océane
d'avoir été avec nous. Télétravail, la nouvelle facture sociale.
C'est démagogique. Alors, on regarde la consultation.
Et c'est quand même un oui sur la nouvelle fracture sociale. Vous voyez, un oui, deux tiers, un tiers. 60, 30, 61, 39. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Kaouter Ben Mohamed, Mourad Boudjelal et Thomas Porcher, c'est le trio de GG qui est avec nous et avec vous depuis 9h ce matin. On file vers le service politique d'RMC, c'est l'heure des indiscrets.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
C'est monsieur Romain Cluzel qui est avec nous. Bonjour Romain.
Bonjour Alain et bonjour les grandes.
Pour nous parler de cette NUPES qui prépare sa marche contre la vie chère du 16 octobre prochain. Préparation laborieuse.
Un sujet est particulièrement sensible, la place de Jean-Luc Mélenchon. Certains organisateurs craignent que le leader insoumis à l'origine de cette marche tire un peu trop la couverture vers lui dimanche prochain. D'ailleurs, les négociations se corsent pour savoir qui prendra la parole à la fin du cortège. Il ne faut surtout pas que ce soit un tunnel. Jean-Luc Mélenchon prévient un écologiste.
Ah, le cas Mélenchon. Enfin, en attendant de régler cette question, on s'est mis d'accord sur plusieurs points.
Le parcours ira de Nation à Bastille avec quatre chars thématiques. La vie chère, les retraites, le climat et la jeunesse. Pour se rendre à Paris, 103 bus partiront de toute la France et il faudra payer le trajet, ce qui fait grincer des dents à un des organisateurs écolos. Pour une marche contre la vie chère, c'est pas forcément l'idéal. Prix des billets entre 5 et 50 euros. Et fait surprenant, le prix n'est pas fixé en fonction de la distance, mais des revenus, que vous partiez de Lille ou de Marseille. Le barème est le même. Pour ceux qui ne pourront pas aller à Paris, LFI a finalement accepté des rassemblements dans le reste de la France après quelques réticences. Des manifestations sont déjà prévues à Marseille, Toulouse, dans le Loir-et-Cher et sans doute à Strasbourg.
Et la participation, c'est l'autre sujet tabou.
Oui, parce que personne ne se risque à fixer un objectif pour le nombre de manifestants, parce que plusieurs organisateurs anticipent un flop. Aucune confédération syndicale ne participera, en partie parce que Jean-Luc Mélenchon n'a rien fait pour les convaincre. Jean-Luc n'a pas toujours mis de l'huile dans les rouages, reconnaît une cadre insoumise. En plus de cela, de nombreux élus critiquent le timing de cette marche qui arrive beaucoup trop tôt selon eux. Une manifestation d'ambiance, tacle un socialiste, qui ne fera pas basculer le rapport de force. D'autres pointent une forme d'apathie au sein de la population. Un membre de la NUPES résume. Les Français sont épuisés, ils n'ont plus la force de se mobiliser, il n'y aura pas grand monde.
Et du côté des partis, on sait déjà que les communistes, eux, y participeront. Hein.
Oui, ils l'ont annoncé hier, mais ils y vont en traînant les pieds. Si on ne participait pas, on voyait déjà la polémique monter, alors on s'y résigne. Mais c'est alarmant d'en arriver là, râle un cadre communiste. Pourtant, cette manifestation prend une importance encore plus grande pour la NUPES après la rentrée pour le moins chaotique à gauche. Il y a un double test, explique une insoumise, mesurer la colère ou la résignation de la population et l'impact des affaires Quatennens et Bayou. Une députée LFI l'admet, pour enclencher une nouvelle dynamique, il faut absolument qu'on réussisse cette marche. C'est encore loin d'être gagné.
Je pense que la vie chère, ça va lui mettre un gros coup de savoir qu'il y a cette marche. Elle doit vraiment trembler, la vie chère.
C'est un truc terrible. Est-ce que vous pensez que ça va marcher bien que
sincèrement, c'est le vieux monde, ça. Je veux faire une marche contre la vie chère. On peut faire une marche contre la violence aux enfants. On peut faire plein de marches, bien sûr. Tout le monde est d'accord. Mais c'est pas une marche qui va régler le problème.
Il y aura un grand cortège à Marseille, a priori.
Il y aura un cortège. Après, si c'est grand, tout le monde annonce des grandes marches, des grands cortèges, des grands. Mais il n'y a rien qui change la vie des gens, en fait. Moi, je suis la première à avoir arrêté de marcher. Parce que marcher pour te faire gazer, exploser en plus. Parce
qu'il y a des marcheurs, il y a 5 ans, pour qui ça a changé leur vie.
Oui, mais bon, on ne parle pas des mêmes marches. Mais si tu veux, il y a aussi dans les manifs de plus en plus de violence. Mais pour quel impact, en fait, réellement? Moi, je l'ai dit ici avec Bruno Poncé il y a quelques semaines. Ce n'est pas une marche ou une grève aujourd'hui, dans le contexte actuel, qui va changer les choses. Si c'est une grève générale, tu vois. Si tu veux changer les choses, tu fais la grève générale, tu paralyses la France, tu mets les patrons et l'État autour de la table et tu négocies. Mais ce n'est pas avec une marche qui est 10 000 participants.
Tu crois qu'on peut changer les choses à l'échelle de la France, toi?
Ou 200 000 participants, ce n'est pas une marche qui va changer quelque chose, malheureusement.
Politiquement parlant, moi, je trouve ça intéressant que l'ensemble de la gauche, qui a fait campagne ensemble pour législative, se réunisse sur des questions de pouvoir d'achat, des questions économiques. Qui là n'occupe pas l'espace en tous les cas médiatique actuellement. C'est bien qu'ils se réunissent là-dessus.
Mais demain, il n'y aura pas une marche parce que la vie n'est pas assez chère.
Ce qui est intéressant, c'est les gens, ils veulent pas que Mélenchon prenne trop de place. Mais il faut jamais quand même oublier que la plupart des gens qui ont un poste aujourd'hui au législatif, c'est grâce à Mélenchon. Ils lui doivent ce poste. Donc cette volonté d'effacer aussi rapidement finalement celui qui leur a donné ce poste-là, je trouve ça un peu bizarre, mais ça ne m'étonne pas en politique.
Merci Monsieur Romain Cluzel. On y va. On passe au quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Le retour de notre camarade Louis Gerbier. Louis, le quiz.
Rebonjour. Qui ont vu leurs indemnités augmenter cette année?
Les parlementaires. Oui. Ça nous énerve tellement. Non, mais c'est indécent.
Ils gagnent tellement peu déjà, les pauvres.
C'est d'une indécence. Sans nom, tu vois, on vient de parler à l'instant d'une marche.
Mais il faut expliquer pourquoi.
Parce qu'ils sont en télétravail.
Non. Comme les fonctionnaires ont été revalorisés, ils sont sur la même grille.
Oui, mais c'est d'une indécence absolue.
Les indemnités,
ça fait combien?
Pour les députés, 7 493 € par mois contre 7 239 avant. Donc ils ont quand même pris 234 €.
Tu peux ajouter qu'à ça, ils ont des indemnités pour leur transport, pour leur logement.
Cauter. Soit on les paye, soit on ne les paye pas.
Je te dis qu'aujourd'hui, on vient de parler il y a 4 secondes d'une marche parce que les gens n'arrivent pas à se nourrir. Et on a des gens qui sont censés les représenter. Le seul qui est exemplaire, c'est Ruffin, tu vois, sur cette affaire-là, qui sont payés 5, 6, 7 fois plus que les gens qu'ils veulent représenter. Comment ?
Il a été augmenté.
Oui, mais Ruffin, il reverse tout. Il prend juste le SMIC et il reverse tout. Et ça devrait être ça, tu vois, un mandat. Tu n'es pas là censé pour t'enrichir. Et excuse-moi, quand eux ont une augmentation de 250 balles, quand les salariés n'arrivent pas à avoir une augmentation, on parlait des salariés qui étaient en grève, là on dit oui, la France est paralysée pour une poignée de gars qui vont dans des raffineries qui sont essentielles.
C'est bon,
exactement. Moi je suis pour que un député soit payé la même chose que son dernier avis d'imposition lorsqu'il n'était pas député.
Exactement. Voilà.
Pas 1 € de plus. Et on va voir là qui aura envie d'être député, qui va nous dire
tous les
je suis là pour défendre la nation. Pour tout ça. Aujourd'hui, c'est quand même un beau fiche et une belle récompense.
Allez, on continue
pour tous les consensuels des partis politiques.
Exactement.
On continue le quiz.
Quel jeu mythique devrait faire son retour à la télé?
Le Big Deal.
Et moi, c'est de la culture.
Une machine.
Avec Gaston Lagaffe. Avec
Gaston Lagaffe.
Gaston Lagaffe. Présente un peu moins bien.
Gaston Lagaffe devait faire son retour aujourd'hui, mais c'est pas possible parce que la justice belge a empêché la sortie de l'album.
Ça vous fait quoi, vous? Ça vous fait rien, le Big Le Retour?
Alors,
du Big
Deal. Alors ça me... mais quand j'y pense, j'ai une vraie notion de l'infini et du vide.
Moi, j'adorais petit, c'était mon jeu.
Oui, mais c'est ta génération, le Big Deal.
Vas-y, continue. J'adorais le jeu du rideau. Tu pouvais gagner une voiture ou sinon un poireau, une paillasse.
Moi, j'ai jamais regardé. Ouais, j'ai jamais regardé.
Bah, tu devrais.
Ça revient.
Les archives.
Qui a dit Fabien Roussel, le candidat PC, est communiste comme moi, je suis religieuse?
Une femme, alors.
Oui. Mathilde Panot?
Non.
Rousseau?
Elle est dans l'actu depuis hier pour quelque chose d'assez glorieux.
Annie Arnaud?
La française prix Nobel de littérature, Annie Arnaud, et qui a affirmé ça.
Elle est plus Mélenchon que Roussel.
Voilà, ouais, elle avait affirmé dans Libé qu'elle était plus Mélenchon. Elle avait bien taclé Fabien Roussel. Ensuite, quel est le premier pays d'Europe de l'Est qui a accepté le mariage des couples homosexuels?
Si c'est
la Pologne, non?
La Roumanie. Non.
La Slovénie,
non? Bratislava, Slovénie, ouais, c'est ça, oui, exactement. Oui. Bravo. Les Slovènes ont donc accepté le couple homosexuel, comme quoi ça avance un peu en Europe de l'Est.
Ouais, c'est aussi le pays le plus riche d'Europe de l'Est. Ouais. Je sais pas si, ouais. Et très, la zone euro, enfin voilà, c'est le pays.
Pas s'il y a un lien de cause à effet.
Non, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais.
Très fort en cyclisme aussi.
Ils sont pas mal.
Voilà.
Ah,
les Belges reviennent très bien en cyclisme. Pogacar.
Gagner le Tour de France.
Et puis il y en a d'autres.
Les ports en cyclisme, en général, c'est quelques années après qu'on le sait.
C'est ça, c'est ce que je sous-entendais.
Le Tour de France, on a le classement, en général, 5-6 ans après.
Demandez à Lance Armstrong.
Lance Armstrong, ouais.
On continue, Louis.
Allez, quelle musique a été choisie en sonnerie de fin de classe par le groupe scolaire Saint-Joseph de Dijon? Un
disque à oui.
C'est la sonnerie à l'école.
Ouais. Tu me mets ça en fin de classe, je regarde.
C'est bien ça. C'est une bonne idée.
Ça arrivait tout le monde, tu sais, en classe.
Mais c'est dynamique, c'est pas le truc.
C'est-à-dire que le problème, c'est que tu l'écoutes 10 fois par jour, t'en peux plus.
Ah ouais.
Ah, mais l'autre aussi, tu l'écoutes 10 fois par jour.
Tu l'écoutes au moment de la libération.
C'est ça ce qui est pas mal.
Alors, la CPE ou la principale, je sais plus, disait qu'ils font des petits sondages, choses comme ça, et régulièrement, ils vont changer pour une musique un peu sympa.
C'est plutôt sympa.
Je vais le proposer à l'école de mon fils.
Il devrait mettre en sonnerie de fin, un peu comme dans les boîtes de nuit, il te mettait Who Let the Dogs Out. C'est la dernière chanson.
Dans cette société, il va falloir être inventif pour nous faire oublier comme on avait manqué de tout, donc c'est bien. Tu en as un dernier ou pas?
Allez, un petit dernier. Quelle est la couleur préférée des moustiques?
Le blanc.
Rouge, ça, c'est du.
Le blanc.
C'est pas tout à fait le rouge, c'est presque, c'est le orange. Et alors pourquoi? En très petit,
dans les Monty Python, dans ma feuille. Favori color.
Et en fait, c'est que les moustiques sont attirés par les tons dominants de la peau humaine, donc orange, rouge et noir. Ressemble à la peau humaine. Voilà.
Donc il faut pas trop bronzer.
Qu'est-ce qu'on en fait de cette info?
Bah, t'aurais pu le mettre dans on s'en fout pas.
Mais pour l'été, c'est important. Le soir, quand tu t'habilles, tu choisis ton t-shirt, faut choisir un t-shirt.
Pour le pull sur les épaules, la bosse.
Parce que là, Thomas, le soir, combien de temps tu prends pour t'habiller, pour sortir l'été?
Façon de s'habiller.
Parce que c'est toujours un moment de.
Oui, on fait attention, mais après, c'est vrai, quand il y a des moustiques et tout, moi, savoir quoi, c'est important.
Ça m'étonne pas que t'aies peur des moustiques.
Ça te tue un repas. Nana, tu manges avec quelqu'un, t'as commencé à avoir un moustique là, ça te tue un repas, ça peut te tuer un rendez-vous.
Tu mets de la crème anti-moustique
ici au rendez-vous, tu vois.
Tu mets de la crème anti-moustique.
Oui, ça peut m'arriver, oui. Je fais attention.
Mais il n'y a rien qui te chemise vraiment. Blanche légère en général pour sortir le soir.
C'est exactement ça.
Info RMC. Info RMC envahi de moustiques dans mon département, je veux dire. Et je peux dire qu'on va peut-être marcher un jour sur Mars, mais on n'est toujours pas capable de traiter les moustiques.
Merci, monsieur Louis.
Bon week-end, Alain.
À suivre, salut Louis. À suivre dans les GG, dans les grandes gueules. On vous a proposé deux sujets de discussion. De quoi voulez-vous parler? 80% des parents qui avouent laisser leurs enfants de moins de 2 ans devant les écrans, ou les calanques Étretat, les accidents de touristes imprudents? Est-ce qu'on doit faire des périmètres de sécurité? On a posé ces deux questions dès 9h. On va voir quel thème de discussion vous avez choisi. On en parle au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.